Verset 19. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues en disant que c'était le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait intérieurement de plus en plus et confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Votre Paul avait une telle connaissance des Écritures que dès qu'il accepte Jésus, sans doute suite aussi au discours d'Étienne, il y a plein de choses qui prennent place dans son esprit et il commence tout de suite à démontrer des choses, à prouver par les Écritures que Jésus est Dieu, que Jésus est le Messie.
Ça peut être aussi le Saint-Esprit, tu crois pas qu'il a reçu?
Oui, il y avait une part de ça. Mais c'était sans doute aussi, c'était lié, les deux étaient liés, c'est-à-dire que Paul était quand même quelqu'un qui était très érudit, qui était très... qui avait une profonde connaissance des Écritures, et à partir du moment où il accepte Jésus...
tout fait sens, quoi, ça prend place.
D'un coup, à mon avis, les Écritures, tout ce qu'il voyait, et tout ce que, par exemple, Étienne avait annoncé, ça a dû dans son esprit tout faire tilt, quoi. D'un coup, il y a tout qui se met en place, quoi. Tout d'un coup, il voit la cohérence et le... On va voir qu'avant de vraiment rentrer dans le ministère, il y a un temps de préparation et un temps où Paul est... On va dire... Reçoit un enseignement de la part de Jésus qui passe un moment dans... on va regarder après que c'est dans Galates qu'il l'annonce, qu'il le déclare, qu'il est parti pendant 3 ans. Mais en tout cas, ici, on voit que très rapidement, il est converti, il rentre dans les synagogues, profite du fait que dans les synagogues, les hommes juifs avaient le droit de parler, d'annoncer des choses. Et les gens sont étonnés. De voir la force, la puissance de la conversion. De voir ce changement complet entre quelqu'un qui recherchait les chrétiens pour les tuer et maintenant qui annonce le même message et qu'il démontre par l'Ancien Testament qu'ils ont raison et un des commentateurs que je lisais, un des commentaires faisait remarquer que souvent quand on vient de se convertir, on est souvent, Dieu peut nous utiliser puissamment, on a une excitation et peut-être qu'on comprend encore assez bien les gens qui ne croient pas. On est tellement étonné du fait d'être sorti de cette ancienne vie, d'être devenu une nouvelle créature, qu'on a envie de leur dire venez aussi, quoi.
Ouais, c'est bon, il est vraiment tout feu, tout flamme. Pardon.
Mais c'est vraiment...
Et on connaît encore des montagnes.
Et on est plutôt faux de flamme.
Non, je veux dire, parce qu'après, c'est vrai que quand on devient chrétien, on a tendance...
Non, on est tout le temps avec eux, dans le travail. Ouais, ils sont partout. Mais c'est ça, ils sont partout. Oui, je ne comprends pas. Personnellement, je suis tout le temps entouré de ça.
Et ça fait comme si Marbouda, Marmadinejad se convertissait aujourd'hui et commençait à annoncer l'évangile à la télévision.
Et c'est pour ça qu'il faudrait qu'il y en ait plus, c'est ce que je disais. Ouais, allez, coupe,
un des commentaires aussi que je lisais disait qu'un des problèmes de nos jours avec les gens qui viennent à Christ, qui sont connus comme ça, qui ont une qui ont un rôle ou une puissance, une notoriété dans le monde, souvent, d'après ce commentateur, il dit qu'on les met malheureusement dans une position d'autorité dans l'Église. C'est-à-dire que si tu as une star de Hollywood qui devient chrétien, tout de suite, il va être invité dans toutes les églises pour parler, pour partager son témoignage, pour dire les choses. Et cette manière de traiter les gens n'est peut-être pas forcément la bonne. Et on va regarder dans la vie de Paul, qui a un très long temps avant qu'on voit vraiment le fruit. Alors, il annonce toujours Jésus, mais avant de vraiment commencer son ministère, le ministère qui va marquer le monde tel que nous le connaissons, il y a 14 ou voire plus d'années qui se passent. Et donc quelqu'un faisait remarquer que quand quelqu'un de connu comme ça se convertit, si tout de suite on le pousse dans des rôles d'autorité, c'est pas vraiment bon et biblique. Et souvent ces personnes-là, malheureusement, au lieu d'être dans une position dans l'Église où ils peuvent grandir, être pris, apprendre, c'est toujours eux qui parlent. Et finalement, ils n'entendent jamais rien et ils grandissent pas. Et malheureusement, souvent, lui, donc c'était un pasteur en Californie, il disait que souvent ces gens-là, au bout de quelques années, ils retournent au monde. Et il disait que quelque part, c'est parce que l'Église ne joue pas son rôle et les met dans une position où eux annoncent, alors que ce qu'ils ont besoin, c'est d'entendre et d'être enseignés, d'être formés. Donc c'est peut-être une explication par rapport à ce que tu disais aussi. Il y a des groupes de gens qui prient régulièrement, qui prennent une semaine par semaine et ils vont prier pour certaines célébrités. Il y a des gens qui ont ça sur le cœur comme ministère, mais c'est vrai que souvent c'est difficile. C'est la volonté du Seigneur de par rapport à la vie de ces gens-là. C'est un petit peu ce que Jésus disait aussi à propos du jeune homme riche, c'est-à-dire que souvent quand on est dans une position de richesse, d'autorité, de notoriété, on a notre fierté, notre désir, notre ambition personnelle qui malheureusement s'oppose souvent à l'action de l'esprit et empêche que ces gens-là, c'est plus difficile pour ces gens-là de se soumettre à Jésus. Il y a quelques observations sur la conversion de Paul. Si on regarde, Timothée. Timothée chapitre 1. Verset 13. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté, mais il m'a été fait miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis moi le premier. Mais il m'a été fait miséricorde afin qu'en moi le premier, Jésus-Christ montre toute sa patience pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. On voit que Paul prend sa conversion en exemple. Que c'est Jésus qui agit premièrement, qui nous met face à nos péchés, notre rébellion contre lui, même si ces choses sont faites par ignorance, comme il le dit lui-même. Mais que c'est vraiment Jésus-Christ qui nous fait miséricorde. Ça nous rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le salut, c'est l'œuvre de Jésus. Nous, on doit annoncer Jésus, mais c'est Jésus qui nous met face à nos péchés, qui nous montre, qui va nous convaincre de péché par son esprit. qui va nous faire comprendre notre rébellion contre lui. Que c'est lui qui agit en premier, c'est lui qui vient à nous, qui vient nous chercher, même quand nous ne cherchons pas. On voit ensuite avec le rôle d'Ananias que Dieu utilise quand même des hommes pour ce travail, pour ce travail du salut, qu'il veut nous inclure dans ce travail, même si c'est lui qui reprend les hommes, qui nous convainc de pécher, qui nous montre notre besoin de lui. Il veut quand même nous utiliser pour être là, pour l'annoncer lui, mais aussi pour être là, pour aider et encourager ceux qui viennent à lui. Il y a cette importance de la famille de Dieu. Verset 22, « Cependant Saul se fortifiait intérieurement de plus en plus. » Et là, on a l'idée que quand nous servons Dieu, il nous fortifie.
Ça fait référence directe, j'ai l'impression, au passage, juste, il retrouva ses forces, mais on voit que c'est physique, la nourriture. Et juste après, c'est se fortifier intérieurement. On voit que Dieu agit, mais de manière intégrale sur lui. Il y a vraiment une métamorphose, en fait.
Et donc après ce passage-là, verset 22, on voit verset 23, après un temps assez long, les Juifs se concertèrent pour le faire mourir. Et on va regarder dans Galates, on se replonger dans Galates, là où on était, Galates 1. Galates 1, verset... on va reprendre tout le passage ici, là. Verset 11. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. Je persécutais alors à outrance l'église de Dieu et je la ravageais. Dans le judaïsme, je surpassais beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, car j'avais un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, a trouvé bon de révéler en moi son Fils, pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang, et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je suis resté 15 jours chez lui. » Mais je n'ai vu aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, voici, devant Dieu, je ne mens pas. » Donc on voit qu'après l'épisode où Jésus se révèle à lui, il annonce aussitôt parmi les païens, il annonce Jésus parmi les païens, mais... Ah non. Avant de monter à Jérusalem, il y a cet épisode où il part pour l'Arabie. Et encore dans... Et donc on pense qu'il est parti, on ne sait pas exactement la durée, mais en tout cas cet épisode où il doit s'échapper de la ville, il y fait référence dans 2 Corinthiens 11, versets 32 et 33. À Damas, le gouverneur du roi Areta faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi, mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappai à ses mains. Donc on voit que lui-même, dans Galates, il parle du fait qu'il, avant d'aller à Jérusalem, il s'écoule à peu près 3 ans. Donc on estime qu'il était en Arabie pendant 2 ou 3 ans. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a fait. Il y a d'autres références qui en parlent? Je n'ai pas souvenir. Hein. Je vais regarder, non? Et on estime que le Seigneur l'a enseigné, qu'il a reçu des choses de la part de Jésus pendant ce temps-là. En tout cas, pendant une période assez longue, il était parti. Et donc, ce qui se passe ici au verset 23, on va lire la suite de l'histoire, mais ce temps assez long, on peut estimer que c'était entre 2 et 3 ans. C'est-à-dire qu'il est parti en Arabie après sa conversion pendant une période de 2 ou 3 ans et qu'après, il est revenu à Damas et qu'il y a cet épisode avec le roi Areta. Là aussi, ça nous donne des détails sur la chronologie. Les archéologues estiment que ce roi était en place, d'après ce qu'ils ont trouvé, entre 37 et 39 après Jésus-Christ, après la naissance de Jésus. Et qu'on peut estimer donc que Saul est venu à Jésus entre 34 et 36 après Jésus. Donc, pas très longtemps après, ça permet d'avoir une chronologie sur la vie de Paul. Disons ensemble, verset 23. Après un temps assez long, les Juifs se concertèrent pour le faire mourir, et leur complot fut connu de Saul. Ils surveillaient même les portes jour et nuit afin de le faire mourir. Mais de nuit, les disciples le prirent et le descendirent le long de la muraille dans une corbeille. Arrivé à Jérusalem, Saul tâcha de se rejoindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment à Damas il s'était exprimé ouvertement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux à Jérusalem et s'exprimait ouvertement au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à le faire mourir. Les frères en eurent connaissance, le conduisirent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Donc Paul, après avoir persécuté, devient le persécuté. Il s'échappe de manière assez humble, on va dire, sans vraiment de démonstration de puissance de la part de Dieu. Dans un petit panier en petit joueur.
Il n'y a pas une petite symbolique aussi dans la corbeille. Enfin, la corbeille, non, c'est nul. Non, la corbeille, je pense à Moïse, moi. Dans la corbeille sur l'eau. Je sais pas, la corbeille, il n'y a pas après un truc sur la corbeille.
À creuser, à creuser. Éventuellement. Et donc, on a vu dans Galates dans ce qu'on a vu, que Paul est resté 15 jours chez Pierre, Céphas, qu'il a vu aucun autre apôtre à part Jacques, le frère du Seigneur. Et donc ce temps qu'il passe à Jérusalem est assez court. Là encore, on voit que c'est un temps trop court pour qu'il ait pu vraiment recevoir un enseignement de la part des apôtres. Ce n'était pas vraiment vraiment suffisant. Encore une fois, dans cette idée qu'il a vraiment reçu les choses de la part de Jésus. Mais c'est intéressant de noter que les disciples, malgré peut-être 2 ou 3 ans de passé... Oui. D'après ce qu'on a vu, donc il se convertit avec Ananias, il reste à Damas. Et ensuite, lui-même, il dit qu'il part pour l'Arabie sans aller à Jérusalem. Donc on n'a pas de, on a, il n'y a pas lieu de penser qu'il ait vu les apôtres avant. Et là, dans Galates, comment il en parle ? Il dit qu'il monte à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas 3 ans plus tard.
Il reste 15 jours,
oui. Et malgré 2 ou 3 ans découlés, les disciples, ils se méfient toujours. Ils se souviennent toujours de lui.
Sa réputation précède.
Ben, les épisodes avec Étienne et ceux... C'était un homme qui devait éviter dans la rue. Il a agi pendant un moment à Jérusalem. On a vu l'épisode de avec Étienne, mais on voit qu'après, il ravageait l'église en arrachant les hommes et femmes. Donc, il a agi pendant un moment à Jérusalem, et donc ça devait leur rester très fortement ancré dans l'esprit que c'était quelqu'un de...
Et il fait partie aussi de ceux qui étaient justement dans la Sanhédrin et qui avaient mis les apôtres en prison, etc. Mm-hmm.
Mais il y a Barnabas, heureusement, qui fait preuve de l'amour de Jésus, de cet amour dont on parle plus tard, qui croit toute chose, qui va l'accueillir et l'amener à voir les apôtres.
Mais Barnabas, il sait ce qui s'est passé sur le chemin de Damas.
Oui, là on voit, alors on ne sait pas si c'est parce qu'il était à Damas ou si c'est parce que Saul lui a dit. Peut-être qu'il cherchait à voir les apôtres et il voulait... Le reste de l'église voulait protéger les apôtres, mais ouais, qu'il avait quand même réussi à avoir quelques croyants et leur avait raconté sa conversion. Et... On ne sait pas exactement.
Là, on peut se demander quand même si Dieu a fait un tel travail sur Saul, pourquoi il n'essaie pas de maintenir l'unité aussi au sein des disciples? Tu comprends? C'est ce qu'on disait, pourquoi il parle à l'un et pas aux autres? Pourquoi il ne peut pas prévenir aussi les autres que c'est une vraie conversion? Enfin, il ne peut pas les apaiser à ce niveau-là. Pourquoi la méfiance continue de perdurer dans le temps? Je sais qu'après une réputation, une fois qu'on l'a, c'est très très dur de s'en défaire. Et après, c'est tout le mal qu'il a fait, il faut bien peut-être qu'il y ait la conséquence de son péché. Mais quand Dieu l'a fait se repentir une fois, qu'il l'a rempli de l'Esprit Saint, pourquoi il continue d'avoir son passé? Même au sein de ses frères, quoi. C'est ça qui est...
Oui, mais il n'était pas à Jérusalem, donc il n'avait pas, il y avait peut-être pas beaucoup de gens qui étaient au courant.
Qui voyaient le changement.
C'est un peu, enfin, on a vu que c'était 6 jours de voyage, quoi. C'était Damas, c'était pas, il y avait un autre roi, c'était peut-être pas quelque chose où il y avait énormément de gens qui venaient. Ils se disaient peut-être c'est un complot pour nous exposer. Ils veulent nous faire croire que Paul est croyant et on va. Si on se livre à lui...
Et puis d'un autre côté, à travers Barnabas, Dieu a trouvé un moyen de permettre à Paul de rejoindre les apôtres. Donc, en fait, au bout du compte, c'est
une façon
pour
lui de...
Mmh. Après, on ne sait pas. Peut-être qu'ils étaient, comme je disais, peut-être que l'église à Jérusalem, qui endurait pas mal de persécutions, même sans doute sans Paul, avait appris à se méfier et à être... peut-être à protéger les apôtres qu'ils considéraient comme des dans l'église, qu'ils avaient un rôle plus important et qu'ils devaient donc faire attention à comment ils les exposaient, on ne sait pas. C'était peut-être juste de la prudence à ce niveau-là. En tout cas, ils ont dû se réjouir dans le sens où Saul est converti en voyant Jésus, qu'il a appris il a appris tout ce qu'il savait de la part de Jésus directement, et ils ont dû pouvoir passer du temps ensemble avec les apôtres et dire et voir que ce que Saul avait reçu correspondait avec ce qu'ils croyaient eux, et qu'ils ont dû se réjouir d'une telle conversion et de l'œuvre de Dieu dans sa vie. En tout cas, on voit a priori qu'il est resté pas très longtemps, 15 jours, 15 jours qui lui ont suffi pour donner envie à des gens de le tuer. Ce qui est une marque de fabrique un petit peu de Paul dans les villes. En général, il se fait remarquer et il provoque des réactions très fortes chez les gens. Ouais, voilà. C'est deux fois les deux. Hein. Et après, donc, ils ont connaissance encore d'un complot et ils le conduisent à Césarée pour qu'il parte à Tarse. Tarse, encore une fois, on peut regarder sur une carte. Tarse, c'était assez loin. C'était aujourd'hui, c'est en Turquie. C'est plus sur la côte, on va dire, la partie Israël. C'est déjà la partie qui devient ce qu'on considère comme la Turquie. Et dans Galates, encore une fois, chapitre 2, on voit qu'il dit: ensuite, 14 ans plus tard, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. Donc il est resté encore 14 ans à Tarse. C'est Galates 2:1.
C'est pas là où il est.
Tarse, si.
Donc il est reparti,
évacué
dans sa patrie.
Un petit peu,
oui. Ils l'ont envoyé chez lui.
Ouais. Ça c'est un... dans le d'après ce conseil du Sanhédrin, c'est que pour faire partie du Sanhédrin, il fallait être marié. Donc ils s'accordent tous à dire que seul Paul était marié, et les traditions un petit peu de l'église primitive, c'était qu'il aurait été marié, qu'il avait deux fils et que sa femme l'aurait quitté quand il est devenu chrétien, quand il est devenu croyant. Encore une fois, c'est des choses, il n'y a aucun moyen de le vérifier, c'est un petit peu des traditions, il n'y a pas vraiment de moyen de le vérifier, mais le fait qu'il fasse partie du Sanhédrin laisse à penser qu'il était marié. Donc peut-être qu'il est heureux, on ne sait pas. Mais comme je disais tout à l'heure, il se passe beaucoup de temps avant que Paul soit vraiment utilisé. Alors sans doute qu'il a été utilisé à Tarse. On doute pas du fait que Paul à Tarse a dû répandre l'évangile dans la ville. Mais par rapport à ce qu'on voit dans le livre des Actes et par rapport à ses œuvres missionnaires et sa grande, on va dire, épopée, ses écrits, ils viennent dans la partie après ses 3 ans passés en Arabie et ses 14 années passées à Tarse. Et donc il y a quand même cette idée que Dieu Dieu veut nous former, nous utiliser Mais il veut nous, il est bon d'avoir de la patience pour être incorrigible. Et donc il y a cette idée que c'est important de qu'on prenne le temps avant de retrouver une position d'autorité dans les églises. Même pour moi, qui suis assez ici à vous enseigner, quand je disais ça, je me disais c'est soyons patients. Je prie que ce soit la volonté de Dieu, ce qu'on entreprend ici avec l'école. Mais c'est vrai que c'est difficile et on doit prendre ces choses avec humilité. Et on ne doit pas aspirer à tout de suite avoir une position d'autorité dans l'Église. On doit être humble et patient. Dieu, lui, on voit que... On pourrait se dire, là, que 16, 17 ans passés, un petit peu, on ne sait pas trop... on pourrait se dire, mais quel gâchis, pourquoi est-ce qu'il a autant attendu ou,
17 ans, c'est la même chose, mais il a attendu 40
ans. Ah oui, non, après, je ne dis pas, mais je veux dire...
Toujours pire.
Mais je veux dire, Dieu est patient et Dieu veut nous former, nous changer et on n'a pas besoin de se précipiter pour ces positions. C'est aussi une idée de faire attention à des gens qui... c'est dans un... On voit dans 1 Timothée 3, verset 6, parler des évêques, c'est-à-dire des gens qui ont une responsabilité dans l'Église, qu'il dit qu'ils ne soient pas nouveau convertis, de peur qu'enflés d'orgueil, ils ne tombent sous le jugement du diable. Il y a cette idée qu'on doit faire attention, et malheureusement, souvent, c'est le cas. Ça peut être souvent le cas avec des jeunes hommes qui viennent à Christ et qui tout de suite veulent enseigner, veulent avoir une position d'autorité dans l'Église. On doit se montrer patient et pas se précipiter.
Ouais, mais moi je trouve que c'est quelque chose qui est aussi rassurant d'un certain côté, parce que des fois on se dit « ouais, ça fait tant d'années que je suis converti et qu'est-ce que je fais pour Dieu et tout ?» Et d'une certaine manière, enfin, ça nous montre que c'est pas parce qu'on a l'impression de rien faire que Dieu n'est pas en train de nous préparer à quelque chose. Mm-hmm.
C'est aussi par rapport à quelqu'un comme Ananias, par exemple, je me dis, mais on ne sait pas combien de temps il était croyant, ce qui lui est arrivé après, combien de temps il a attendu, mais... Il a quand même une place dans une des histoires les plus importantes du Nouveau Testament. Après Jésus, Paul, c'est sans doute la figure la plus importante de l'Église. On ne sait pas. Mais disons, il y a aussi cette idée de Paul nous appelle à différentes choses. Dieu nous appelle à différentes choses et on doit être prêt à lui obéir quand il nous le dit et on doit aussi être patient dans notre relation avec lui et pas avoir, disons, de volonté ou d'ambition même spirituelle, de dire j'ai envie d'être dans une position, ça doit venir naturellement, ça doit être quelque chose qui est un petit peu qui soit pas poussé ou forcé ou quelque chose pour laquelle on est, c'est un petit peu une frustration, on se dit mais j'ai envie de faire ça, quoi. On ne doit pas avoir ce sentiment face à Dieu. On ne doit pas avoir cette idée de dire à Dieu, ça c'est bien, ok, mais moi je veux faire ça. Mm-hmm. Et ça peut nous arriver. Et on doit faire attention à ça.
Les hommes qu'on voit qu'ils utilisaient beaucoup par Dieu dans la Bible, disent que c'est pas moi, Seigneur, j'ai pas vu te sauver, c'est pas moi, Gédéon, c'est humilité qui me signe le sens de mission personnelle.
Verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc le chapitre commence avec un homme qui respire la menace et le meurtre et finit avec l'Église en paix. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait plus de persécution, mais simplement que l'Église était en paix face à l'opposition, face à ce qui pouvait se passer. On voit que l'œuvre de Dieu par son Église est plus forte que l'opposition. Il retourne celui qui était peut-être l'opposant le plus farouche et le ramène à sa cause. Ici, on voit que l'Église est présente en Judée, en Galilée, en Samarie. Et pour l'Église en Galilée, on n'a pas de récit à propos de comment elle a commencé. Encore une fois, le livre des Actes n'est qu'une histoire partielle de l'Église. On n'a pas tous les détails. Pardon ?
L'Église
en France.
Mais
oui,
on n'est pas inscrit dedans, pourtant, fait partie de l'Église aussi. Mmh.
Et là, on voit deux bonnes conditions pour que l'Église grandisse, la crainte du Seigneur et l'assistance de l'Esprit-Saint. Dans d'autres traductions, il est marqué le réconfort de l'Esprit-Saint. Les commentateurs disaient que souvent, on a l'un ou l'autre extrême. On a les gens qui ont une grande crainte du Seigneur, qui comprennent son autorité, qui comprennent sa souveraineté malgré des oppositions dures. Et ces gens-là ont besoin d'être réconfortés, ont besoin du réconfort de l'Esprit-Saint. Ou alors, il y a des gens qui sont peut-être un petit peu juste réconfortés et que pour avoir pour grandir dans la crainte du Seigneur, ils ont besoin d'opposition, de comprendre, d'accepter des choses difficiles. En tout cas, c'est deux bonnes choses, c'est deux choses importantes pour que l'Église grandisse. On a encore un sentiment d'une Église qui grandit de manière naturelle, de manière continue.
Je voulais savoir, est-ce que c'était sous quelle empreinte ? Parce que ce que nous sommes tous, il y a eu la Pax Romana, donc en fait, les chrétiens ont bénéficié vraiment d'un temps. C'est pour ça que je voulais savoir si ça pouvait correspondre ou pas.
Non, il me semble que non. Il me semble que c'était pour cette période-là. Mais a priori, les Romains n'étaient pas très. Les Romains deviennent violents envers les chrétiens beaucoup plus tard. Les principales persécutions qu'on voit dans le livre des Actes. Alors parfois il y avait les Romains, mais principalement c'est les Juifs dans les différentes villes, ou alors des gens qui ont un intérêt particulier dans certaines des villes comme Corinthe, où il y avait certains cultes voués à d'autres dieux et des marchands qui par exemple profitaient d'un commerce par rapport à la religion en place, se retrouvent contrariés et donc veulent persécuter le les croyants. Et on voit même que on avait dit quand on parlait du livre des Actes qu'on pensait que ça pouvait éventuellement être une défense de la foi chrétienne auprès des Romains. Et on avait dit que ce qu'on voit souvent dans les récits, c'est que les autorités romaines étaient plutôt favorables à la foi chrétienne et n'avaient pas forcément d'objection. On voit souvent les autorités romaines devant lesquelles Jésus ou Paul ont été amenés. Souvent, ils disent, mais on n'a rien à redire, quoi. Mais puis, par exemple, avec Paul, il lui dit, mais j'aurais pu te laisser libre, mais puisque tu en as appelé à César, bon, ben, je t'envoie à César. Et c'est, on pense, les historiens pensent que c'est sous le règne de Néron qu'il aurait été exécuté, et que c'est à ce moment-là que la persécution a vraiment commencé fortement par l'Empire romain. Donc juste deux mots sur Paul. On avait déjà parlé de l'importance de Paul, du fait que le livre des Actes est important aussi parce qu'on voit la vie de Paul. Parce que Paul lui-même a dit aux croyants de l'imiter lui, comme lui imitait Jésus. Il était né à Tars, un des centres de la culture grecque. Il a étudié à Jérusalem. Il avait ce mélange juif, romain et grec, citoyen romain, mais dans une ville avec une très forte culture grecque. Mais en étant élevé en ayant appris au pied de Gamaliel, qui était une des autorités religieuses, une des figures de la foi juive. Et donc quelque part, c'était l'homme parfait pour son rôle envers le reste du monde. Il connaissait la culture romaine, la culture grecque, il parlait les langues, mais en même temps, il connaissait parfaitement les écritures juives. On voit qu'il reçoit lui-même directement l'évangile de la part de Jésus, d'après ce qu'il dit lui-même. Il a écrit 13 livres. Et on peut... Ce gars-là, c'est... Quand on y réfléchit, quand on prend vraiment le poids de son rôle dans le monde, c'est un, j'ai envie de dire, c'est un mastodonte, quoi. C'est une bestiasse, quoi, le gars. Il a affecté le monde tel que nous le connaissons. Il a affecté tout l'Empire romain ici. Sans doute par son action, par ses livres, il a grandement contribué à la constitution de l'Église catholique qui a influencé une grande partie du monde. C'est en lisant Romain que Luther a amené la réforme. De par ses écrits, il a vraiment influencé le monde tel que nous le connaissons. Il y a tellement d'hommes... Alors évidemment, c'est par l'esprit et par la grâce de Dieu qu'il a écrit ces livres, qu'il a formé ces choses, mais c'est vraiment au niveau de la doctrine chrétienne, c'est parce que si on regarde, on a l'Ancien Testament avec l'Ancienne Alliance, on a les Évangiles qui nous racontent Jésus, mais qui nous donnent pas vraiment une doctrine ou une structure à la foi chrétienne. On a l'exemple à suivre de Jésus, mais son enseignement dans ses épîtres, ça nous donne vraiment une explication incroyable de la foi chrétienne et de ce que nous devons croire. Je serais tenté de dire que c'est après Jésus, c'est peut-être un des hommes les plus influents de l'histoire. dans les effets que ça a eu sur la société, par la réforme, par la renaissance, par les premiers hommes qui ont... C'est vraiment quelqu'un de... Ça a un poids incroyable et on va encore regarder sa vie dans la suite du livre. Mais juste... essayez de vous mettre ça en tête, quoi. Ce gars-là, par la grâce de Dieu, a pu être quelqu'un de vraiment incroyable. Regardons rapidement. Il y en a un qui doit partir, il est 10h. On va regarder rapidement la fin du chapitre 9. Verset 32, Pierre, qui parcourait tous ces lieux, descendit aussi vers les saints qui habitaient à Lydda. Il y trouva un homme du nom d'Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et qui était paralysé. Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ guérit, lève-toi et toi-même arrange ton lit. » Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lydda et de la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Il y avait à Jaffa une femme du nom de Tabitha, ce qui se traduit d'Orcas. Elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'aumônes. Elle tomba malade en ces jours-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydda est près de Jaffa et que les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait, ils envoyèrent 2 hommes vers lui pour le supplier. « Ne tarde pas à passer chez nous. » Pierre se leva et partit avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le fit monter dans la chambre haute. Toutes les veuves s'approchèrent de lui en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas lorsqu'elle était avec elle. Pierre mit dehors tout le monde, s'agenouilla et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi. » Alors elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jaffa chez un certain Simon, corroyeur. Verset 32, Pierre parcourt tous ces lieux. Ça dénote, son comportement ici dénote avec le comportement qu'on voyait précédemment. Les apôtres commencent à parcourir plus de territoire, ils sortent de Jérusalem et vont amener Jésus ailleurs. On voit donc une première guérison. La guérison d'Aîné qui était paralysé. Pierre ici identifie encore bien Jésus comme celui qui le guérit. Et ensuite, on voit l'histoire de Tabitha ou Dorcas. Qui est ramené à la vie. Et en lisant ce passage, on peut encore se dire, mais pourquoi est-ce qu'on a encore ces récits de miracles? Qu'est-ce qu'on doit en comprendre? Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas ramené à la vie Étienne, qui peut-être était beaucoup plus utile à l'Église? On ne sait pas.
En l'occurrence, apparemment, ça a été utile quand même, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont convertis par
ce livre. Encore une fois, on ne sait pas toujours pourquoi Dieu fait les choses. Mais encore une fois, c'est important de noter que Jésus peut faire des miracles. Et après l'histoire de Paul, qui est aussi un miracle incroyable. on peut se demander est-ce qu'on y croit, que Dieu peut soit guérir des gens, les ramener à la vie. Est-ce qu'on croit que Jésus peut changer la vie des gens, peut libérer les gens de dépendance à différentes choses, l'alcool, les drogues, les problèmes, est-ce qu'il peut guérir ces choses-là?
Mais je pense que souvent, enfin, peut-être là je parle pour moi, mais j'ai l'impression que souvent, on croit qu'il peut faire ces choses-là, mais on ne croit pas qu'il peut nous utiliser, nous, pour faire ces choses-là. Mm-hmm. On se dit, ouais, bien sûr, c'est Dieu qui peut faire des miracles et tout, mais faire le pas de foi que fait Pierre à chaque fois, mm-hmm. là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mm-hmm. Ouais.
Ouais. Moi, ça m'a marqué un petit peu. J'y réfléchissais, je me disais, j'ai l'impression dans notre génération qu'on est dans une génération un petit peu blasée, peut-être. On se dit, enfin, pour que ça m'arrive à moi ou que certaines des promesses de Dieu pour moi arrivent, c'est un peu trop beau pour être vrai. On a l'habitude, on a un peu. Et encore une fois, la même question un petit peu dont on a déjà discuté, de savoir pourquoi on a l'impression d'en voir moins dans l'Église. On ne sait pas. Mais c'était intéressant ce que disait Chuck Smith. Il disait qu'il avait prié longtemps pour que le Seigneur lui donne des dons de guérison. Et que le Seigneur lui avait vraiment répondu en lui parlant par 1 Corinthiens. Si on regarde à partir du verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ensuite, il y a le don des miracles, puis les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous font-ils des miracles, tous ont-ils des dons de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et que Dieu lui avait vraiment dit qu'il y a c'est des choses bonnes que Dieu peut donner aux gens. Mais qu'il y a une voie par excellence qui est la voie de l'amour et de ce qu'on voit dans le chapitre 13.
Ça me fait penser aux disciples, enfin non pas aux disciples, aux gens qui ont porté à quatre un homme qui ont découvert le toit. Mm-hmm. Et là, ça me fait penser aussi à ça parce que c'est une femme. Et a priori, bon, on n'entend pas beaucoup de guérison de femmes. Et là, c'est deux disciples qui ont été envoyés pour chercher Pierre, pour le faire venir, pour l'amener avec eux. Et puis après, arrivé à la maison, c'est des femmes qui sont montées avec lui, lui montrer la femme qui était allongée, qui était morte, et qui pleurait, qui montrait les vestes et tout ce qu'elle avait fait et tout ça. C'est beaucoup d'amour. Sinon, Pierre, il serait jamais venu. Et en fin de compte, il n'y a pas d'autre raison. Juste parce que tout le monde aimait cette femme.
Non, c'est parce que Dieu l'a voulu.
Oui, d'accord, mais ils aimaient
c'est
cette
pas,
femme.
C'est pas parce que les gens ils aimaient... Est-ce que les gens n'aimaient pas Étienne?
Non, c'est pas pareil.
Pourquoi?
Non, Étienne était arrêté par les autorités. C'est ça, là, elle était morte.
Oui, mais il y a d'autres personnes qui sont mortes et qui n'ont pas été ramenées à la vie. C'est pas parce que...
Souvent, les prédicateurs ou Jean-Baptiste mouraient, ils n'étaient pas ressuscités, mais là, c'était une femme qui travaillait beaucoup, qui faisait beaucoup de bien autour d'elle, et Dieu prend la peine de la ressusciter. Malgré son humilité, elle bénéficie quand même.
Oui.
Mais... Moi, il y a une chose qui me surprend quand même, c'est que elle était morte.
Oui.
Et je veux dire, c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de guérisons par les apôtres et tout, mais je me demande qu'est-ce que les gens attendaient en fait en allant chercher Pierre. À quoi ils s'attendaient?
Peut-être à ça, non?
Est-ce qu'ils disaient qu'il peut la ressusciter? Non, je ne sais pas.
Moi,
non, mais c'est spécial, quoi.
Ça fait penser aussi à l'histoire de Jésus qui ramène à la vie la petite fille. Et d'ailleurs, c'est intéressant que ce soit un nom qui est presque... C'était Talitha, le mot que disait, qu'avait dit Jésus. Lève-toi, Talitha. Et ici, c'est Tabitha. Et la manière dont il se comporte, c'est vraiment à l'image de Jésus. Il demande aux gens de sortir, il lui parle, il la fait lever. Après, il la montre aux gens. C'est vraiment... Pierre qui imitait dans la mesure de ce qu'il pouvait Jésus. Peut-être on va juste, j'ai prié vite fait, puis on arrête avec nous. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta volonté, ta souveraineté, ton bon plan. Merci parce que tu viens nous chercher, même quand. Quand nous nous opposons à toi, quand nous n'avons pas eu l'envie de venir à toi, tu es venu à nous. Tu es venu t'offrir un sacrifice pour nous. Merci pour cette histoire de Paul et pour son œuvre qui encore aujourd'hui nous touche et nous bénit. Aide-nous à poser ces questions à te poser ces questions avec humilité, avec simplicité de cœur et avec un désir de t'obéir, ces questions de qui tu es, de qu'est-ce que tu veux que nous fassions, Seigneur. Aide-nous à être sensibles à ton esprit, pour ta direction, Seigneur. Merci encore pour ce temps, bénis-nous sur le chemin du retour pour entrer à la maison, Seigneur. Amen.